Ponge, c'est assez étonnant, parce que moi, je ne connaissais pas les passages de Ponge que vous citez. Je ne connaissais pas ce livre qui s'appelle...
Ah, La rage de l'expression, ouais, c'est un de ses plus beaux.
Alors, bon, moi, je connaissais le parti pris des choses, etc. Mais ce sont des passages extraordinairement... Alors, vous dites qu'il est... Oui, il est sans doute gêné, un peu, mais c'est extraordinairement... audacieux. Ça fait partie des... puisque l'érotisme est mis en avant dans le livre, n'est-ce pas? Ça fait partie des passages les plus érotiques.
Bien sûr, bien sûr. Pourquoi l'œillet lui évoque-t-il... Il faut lire ce recueil, enfin, La rage de l'expression, dans des textes magnifiques. La Mounie, le carnet du bois de pain, etc. Enfin, je ne vais pas vous présenter Ponge, je suppose que vous savez à peu près ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire rentrer dans les choses elles-mêmes avec le langage qui convient. Et d'après lui, ce n'était jamais le cas. C'est-à-dire, encore une fois, on dédaigne l'observation, on ne pas s'interroger. Alors, il se place devant un œillet. Tout à coup, il choisit l'œillet. Il y a d'autres sujets. Il y a la guêpe, il y a le bois de pain, il y a un ciel de Provence, il y a des... Tout ça est très, très, très curieux, très beau. Enfin, ça a été vraiment un très grand ami lorsque j'étais très jeune. Je peux dire même que j'ai travaillé dans son atelier. Ouais. Voilà, comme on disait des peintres autrefois. Donc, l'œillet, pourquoi est-ce que tout à coup... c'est très beau, l'œillet. Bon, il a des tas de métaphores, dont certaines d'ailleurs sont religieuses. Il faut souligner qu'il est protestant. Alors, brusquement, il voit une foule sortir de la communion, enfin de la messe. Mm. Bon, bizarre.
La communion.
Et puis, ça l'amène quand même à évoquer une culotte de fille jeune et propre, déchiquetée à belles dents. Mm. Puis il s'en tient là parce qu'il y a... Mais alors, on aimerait en savoir davantage. C'est pourquoi tout à coup, cette culotte propre d'une jeune fille qui se tient très bien est-elle déchiquetée à pleines dents? Les siennes, je ne sais pas. Alors, pour le mimosa, ça devient encore plus étonnant, parce que le mimosa lui évoque d'ailleurs des souvenirs de sensualité. Il est enveloppé. Mm. Bon, le mimosa... voilà, j'ajouterai le lilas et la violette de Parme, mais enfin, avouez que le mimosa est
très... Ah oui, le mimosa, et puis c'est très pongien parce que et en même temps il dit ça, en écrivant il dit sa difficulté à écrire sur le mimosa.
La question, voilà, c'est ça. Il a des difficultés à imaginer, comme tout le monde, à imaginer la dépense pour rien. Or les fleurs, c'est ça. Donc à la limite, on a toujours l'impression que ça va ressurgir l'idée que la fleur n'est qu'un moment pour le fruit. Or vous voyez, c'est une hantise, ça. Et Ponge est habité aussi par... La dépense pour rien, c'est les fleurs. Et ça, vous n'allez pas me dire que c'est d'une gratuité totale. Alors, bon, bien sûr, on peut les acheter, les vendre, les photographier, tout ce que vous voudrez, essayer de les faire rentrer dans le système. Mais c'est une intense activité pour rien. La rose est sans pourquoi, j'ai lu Silésius, c'est pour ça que ça pue. Inspiré alors ce mystique de la contre-réforme baroque, qui lui alors se félicite, enfin se trouve que là il y a là quelque chose d'absolument divin dans l'existence des fleurs, qui fleurissent. Pourquoi? C'est pas pour vous faire plaisir, que vous soyez là ou pas, ça n'a aucune importance. Donc, elles ne le font pas non plus pour être photographiées ou vues, n'a aucun souci d'être vue, fleurie parce qu'elle fleurit, voilà. Donc, gratuité. Dépense beauté, gratuité. Ah. Et ça, c'est tellement contraire au calcul, à la prise en main par la technique de toutes les habitudes des mammifères, qui va s'aggraver, que moi, ça m'a donné envie de montrer que tout ça, c'était pour rien. C'est gratuit.
Dans ce florilège...
Florilège.
Ouais, florilège... Il y a deux écrivains, le roman de la rose, quel est l'auteur exactement?
Il y a deux
écrivains avec qui vous êtes sévère, les auteurs du roman de la rose et Mallarmé, l'absente de tout bouquet.
Oui, il y a longtemps que j'avais envie d'en découdre un peu. C'est-à-dire, ce que j'ai en vue là, c'est la façon dont Mallarmé occulte Rimbaud. Je crois que le très grand novateur, c'est Rimbaud. Mais je pense que si on regarde vraiment l'extraordinaire richesse savante des illuminations, par exemple, que personne, à mon avis, ne lit vraiment. On est toujours dans le mythe, Rabot, Verlaine, Saison d'enfer, et encore sans lire. Bon. Mais Mallarmé, les fleurs deviennent des idées. Et l'absence de tout bouquet, c'est célèbre.
Non, c'est Platon.
Ah, je le crains. Je le crains. Donc, la fleur se raréfie en idées. Hein. Et donc, du coup, les trop grands glaïeuls, par exemple, tout ça, il y a quelque chose, il y a comme une sorte de... Le drame de Mallarmé est là très visible, je crois, dans la prose pour des essaims, hein, c'est-à-dire là. Qui demande, à mon avis, je crois que c'est la première fois je me suis permis de dire que il n'y avait pas vraiment de fleurs chez Mallarmé, quoi. Voilà. D'où l'absence de tout bouquet. Je dis une fleur, et tout à coup, voilà. Et l'embêtant, c'est que si les fleurs évoquent la substance féminine, on peut se diriger en effet vers la disparition de cette substance à travers une conception
de la fleur
comme idée.
N'est pas simplement cérébral. Il y a le poème sur la négresse par le démon secoué, etc.
Oui, ça c'est Baudelaire. C'est Baudelaire.
Quoi ? Ça vient de Baudelaire.
Oui, c'est Baudelaire. Le grand poète, c'est Baudelaire, oui. Et Baudelaire, oui, bien sûr. Au passage, je vous signale que, à ma connaissance, il n'y a pas eu un seul livre écrit sur la maîtresse de Baudelaire, Jeanne Duval. Carteronne, donc il y a un racialisme dans les études historiques qui me paraît tout à fait sensationnel. On ne sait pratiquement rien de la femme qui a inspiré à Baudelaire parmi ses plus beaux poèmes. Alors je vous demande pourquoi. Moi j'ai ma réponse, mais je trouve qu'il vaut mieux rester sur le pourquoi. Mm-hmm. En revanche, Genet, qui est un très grand poète,
oui, alors, Genet.
Nous passons à l'autre bord. Et donc là, les choses... Le roman de la rose, je laisse un peu tomber parce que on se fatigue très vite. Et donc c'est du français encore. Mais qu'il y ait pu y avoir là aussi ce titre-là et cette idée que la rose était quelque chose qu'il fallait cueillir, enfin, que le désir devait aller jusqu'à s'emparer vraiment de cette rose. Il y a d'ailleurs là, dans toute cette affaire, des allusions alchimiques qui sont tout à fait évidentes, mais je n'avais pas le temps de développer. On pourrait faire un texte sur la signification florale dans l'alchimie, par exemple. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui sont très intéressants de ce point de vue. Mais alors Genet, lui, vous êtes devant le miracle de la rose, Notre-Dame des fleurs, etc., etc. Bon, là, vraiment, ça abonde et d'une façon tout à fait impressionnante. Là, je donne des exemples qui montrent à quel point ça vient aussi de Proust. Il y a une sorte de parenté. Notre-Dame des fleurs, c'est quand même un jeune truand, etc., qui, voilà... Et là, le floral, alors, ce sont des corps de mâles ou de travestis. C'est un autre département. Il y a tout.
Cela dit,
tous les goûts sont, dans la nature.
Ah bon. Merci. Il y a un beau passage sur le rapport avec son nom et le Genet. Oh, admirable.
Il faut le lire parce que je crois que c'est très très beau parce que il est oui c'est très touchant ça. Genet. Oui. Quand je rencontre dans la lande des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi et peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines par elles dans ce sol de France, nourri des eaux en poudre des enfants et des adolescents enfilés, massacrés et brûlés par Gilles de Rais. Donc vous passez tout de suite d'une évocation florale innocente au crime.
Au crime.
Ça c'est Genet, hein, c'est-à-dire que immédiatement ça. Voilà. Voilà. Donc ça, ça c'est tout à fait lui. Voilà. Par exemple, il découpe, il est en prison, hein, et il découpe, nous sommes en 1942 à Fresnes, et il découpe dans les journaux les photos de ces sombres fleurs, hein, c'est-à-dire des condamnés qui ont été guillotinés. Et voici comment il en parle. Les journaux arrivent mal jusqu'à ma cellule, et les plus belles pages sont pillées de leurs plus belles fleurs. C'est mac comme jardin en mai. Les grands macs inflexibles, stricts, sexes épanouis, dont je ne sais plus s'ils sont des lys ou si les lys et sexes ne sont pas totalement eux. Au point que le soir, à genoux, j'embrasse de mes bras leurs jambes. Voilà. Et je commente en disant, Genet dans sa cellule parle comme une religieuse au couvent. C'est sainte Genet, pas du tout comédienne et martyre, et encore moins martyre, ses extases emprisonnées, mais libres, visent un rien, un vide, une fleur de mort, comme la fleur de lys sur l'épaule des voyous d'autrefois. Et en effet, tout de suite, rappel... De la famille.
Le lys est... Les femmes aussi.
Les femmes, bien sûr. Alors, Alexandre Dumas. Voilà. Bien sûr. Et donc, le lys, évidemment, a une très longue histoire. On disait les lys pour la France. Hein, c'est-à-dire, on disait pas la France, on disait les lys. Le royaume des lys.
Il y a une chose qui m'a amusé, c'est que vous
Les roses, les lys.